Prions ensemble, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, nous sommes heureux d'être devant toi, Seigneur, d'ouvrir ta parole. Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour nos péchés, Seigneur, pour tout ce qui n'est pas à ta gloire. Et merci, Seigneur, parce que tu es un grand roi. Seigneur, tu mérites l'adoration, la louange, Seigneur. Tu mérites vraiment tout l'honneur, Seigneur, parce que nul autre roi que toi ne fait grâce comme tu fais grâce. Seigneur, tu pardonnes, tu restaures et tu nous supportes, quand bien même nous n'arrivons pas à nous supporter. Béni sois-tu, Seigneur, d'éternité en éternité, parce que tu es notre Dieu, notre Sauveur, notre Maître. Seigneur, alors que nous ouvrons ta parole, veuille nous parler, nous réconforter, nous fortifier, Seigneur, nous encourager, nous bénir, Seigneur. C'est ce que nous te demandons dans le nom puissant du nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Colossiens, Colossiens chapitre 1, et on va lire à partir du verset 12. Donc Colossiens chapitre 1, verset 12. On a tous, n'est-ce pas, dans la vie une raison d'être. Et il y a toutes sortes de raisons d'être. Hein. Et la raison d'être en soi va définir le comportement. Alors je réfléchissais un petit peu, hein, on pourrait dire les raisons d'être ou la raison d'être de quelque chose, ça va être aussi le but final de ce en quoi je vais croire, de ce pourquoi je vais vivre. Alors je réfléchissais, je me disais, mais si on regarde dans la vie de tous les jours, au niveau du foot, le football, ben, la raison d'être du football, d'un footballeur, c'est de marquer des goals, c'est de gravir les échelons. La raison d'être de grandes idées, des grandes philosophies, ça va être de propager leurs idées. La raison d'être d'un homme d'affaires, d'un businessman, ben ça va être de faire de l'argent, de faire des affaires. C'est sa raison d'être. La raison d'être de l'Église, si on regarde Colossiens, c'est d'être irréprochable pour le jour de Jésus-Christ. Et ce que je me rends compte, c'est qu'avec, quand on parle de raison d'être, quand on parle de but final dans notre vie, mais tout cela va influencer nos actions, tout ce que l'on va être. Le joueur de foot, c'est marquer des goals. L'homme d'affaires, c'est faire du fric. L'Église, être saint et irréprochable pour le retour de Jésus. Alors c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Hein. Dieu nous appelle à être irréprochables. Alors, vous savez, irréprochable, ça veut dire sans reproche. Et c'est là que ça coince. Quand on se regarde dans la classe et qu'on se dit « t'es irréprochable », en général, il y a votre conjoint derrière qui dit « mon œil ». Ou les enfants « mon œil ». Il y a encore des kilomètres à faire, hein, papa, parce que il n'y est pas. Irréprochable. Pourtant, Dieu ne nous demande pas plus et pas moins que ça. On est appelé à être irréprochable. Je vous invite à lire Colossiens chapitre 1, verset 12. Et là, il nous est dit, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible. » Le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, et sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. C'est extraordinaire. Hein, quand j'aime beaucoup voyager et aller dans les autres églises pour rencontrer les gens, les frères et sœurs, je trouve que ça donne une image, une photo de l'étendue de la famille et du peuple de Dieu. Mais d'un autre côté, j'aime pas venir non plus. Parce que je me dis toujours, mais quand on prêche dans son église, c'est facile, on sait, on connaît ces gens. On sait tout de suite, ben tiens, on sait que c'est dans ce sens-là qu'il faut prêcher, il y a besoin de dire ça. Quand on va dans une église qu'on ne connaît pas, on est devant un inconnu des plus totales. Et je vous avoue que j'ai séché pendant la semaine, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais aller leur raconter à ces gens-là? Je les connais pas, je sais pas leurs besoins, je sais pas ce dont ils ont besoin au niveau de l'église. Et puis hier, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler ensemble du royaume. Le royaume, puisque c'est à cela qu'on est appelé, et c'est à cela que l'on fait, on fait partie de ce royaume. Et j'ai été extraordinairement surpris, moi je crois au Saint-Esprit, je crois en Dieu le Père, je crois au Fils. Et j'ai été émerveillé de voir comment Dieu a organisé le culte. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans la plupart de vos chants, on a chanté, et dans la plupart des lectures, on a parlé d'Ésaïe, le royaume messianique. On a chanté le roi méprisé, le roi souffrant. C'est un thème qui revenait dans tous les chants. Qu'on vienne me dire que Dieu n'est pas vivant et qu'il ne parle pas à l'Église de Dieu aujourd'hui. À mon avis, celui qui n'a pas compris, il peut aller chez l'ORL. Il a des bouchons dans les oreilles, c'est pas possible. Parce que Dieu nous parle, n'est-ce pas? Et c'est important de bien se rendre compte aussi que Dieu a un plan pour son Église. Quelle que soit l'Église, quelle que soit la taille de l'Église, quelle que soit la composition, l'arrière-plan des gens qui forment l'Église, quel que soit le lieu où se trouve l'Église, et quel que soit son ministère, Dieu a un plan et l'Église rentre dans ce plan. Le plan de Dieu, c'est la construction du royaume avec Jésus comme roi. Et dans quelques semaines, dans 2 semaines, compte à rebours est lancé à partir de demain, dans 2 semaines, partout dans le monde, nous allons célébrer la Pâque. La Pâque, c'est le déclencheur, n'est-ce pas, de la construction messianique de ce royaume, du développement de ce final de ce plan divin dans lequel on s'inscrit. Et nous avons le privilège de rentrer dans le plan de Dieu. Et il est bien entendu important de prendre conscience que Dieu veut nous donner une raison d'être. Il y a une raison d'être à l'œuvre de Dieu en nous. Et la première chose pour laquelle Dieu nous appelle à faire partie de son plan, c'est pour nous préparer à l'éternité. C'est les versets 12 à 20 qui nous en parlent, n'est-ce pas? Rendez grâce au Père. Dites merci à Dieu du fond du cœur d'avoir la possibilité d'être participant à son plan. Il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Vous savez, L'Oréal a une publicité qui dit « Nous le valons bien ». Quelle que soit la bonne femme qui présente les shampoings, qu'elle soit blonde, qu'elle soit noire de cheveux, rousse, qu'elle soit belle, qu'elle soit pas belle, c'est « Elle le vaut bien ». Elle mérite les soins de L'Oréal. Mais une chose importante à bien se rendre compte, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne méritons rien. Nous ne méritons pas notre place dans le royaume de Dieu. Nous ne méritons pas la grâce de Dieu. Bibliquement parlant, tout ce que l'on mérite, c'est la colère de Dieu, justement pour nos péchés. Mais Dieu, dans sa grâce, a décidé de payer à notre place. Il s'est incarné. Son propre Fils a encaissé la colère de Dieu pour nos péchés. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est ce qui fait que aujourd'hui, quand on a pris la Sainte Cène, on n'a pas fait pénitence. On n'a pas sorti les martinets. On n'a pas commencé à voir se mettre à genoux et réciter des choses ou se faire du mal. Nous n'avons pas été frappés parce que Christ a été frappé pour nous. Il a pris la colère de Dieu pour nos péchés. Il l'a expié à la croix. Si vous lisez Lévitique 16, vous avez une image magnifique de l'œuvre de Jésus. Vous savez, souvent, Lévitique, c'est le livre des pauvres, c'est celui qu'on ne veut pas lire. Parce que c'est le livre le moins intéressant, le moins motivant. Mais pourtant, c'est le livre central de l'expiation. Mais il sait, quand on voit toute la technique que Dieu avait mise en place pour Israël, pour avoir le pardon et le nettoyage complet du tabernacle une fois par an, à ces gens-là, ils avaient amené deux boucs. Il y en avait un qui était égorgé pour l'expiation, il y en avait un autre pour lesquels on confessait les péchés, qu'on tapait au désert, ils étaient à mourir là-bas. On se dit, mais quand on est en fait, il fallait amener des boucs, il fallait amener des vierges, tout ça. Mais une, franchement, ça devait être simple. Hein. Quand on étudiait lui, du député qui a été tué, il y a même une dame qui m'a dit, mais ça devait joliment tuer, parce que le sang tué, ça doit sentir. Vous ne pouvez jamais penser à ça. Quand je veux dire boucher dans la famille, hein, je n'ai jamais pensé à ça. Je me suis dit, c'était quand même vachement compliqué, c'était quand même toute une affaire. Hein. Mais pourtant, quelle image extraordinaire de l'œuvre de Jésus. Jésus, vous savez d'où ça vient, le bouc émissaire. Ça vient de l'émissaire, le bouc pour Azazel. Azazel, ça veut dire l'émissaire, celui qui est envoyé. C'était celui qui était jeté à la porte, littéralement, on pourrait dire. Le bouc émissaire, c'est une notion biblique, c'est pas genre si le nom ou le plus poireau qui l'a inventé, ce truc-là. C'est la Bible, c'est Dieu. Jésus est devenu notre bouc émissaire. Il a pris mon péché, il a expié et il a expédié mon péché. Parti, ça n'existe plus, fini. Dieu l'a payé le jour des expiations. Dans quelques jours, nous allons célébrer le grand jour de l'expiation. Nous allons célébrer l'expiation éternelle que Jésus a accomplie à la croix pour nous. Et nous rentrons dans ce plan de Dieu. Alors évidemment, on comprend pourquoi l'apôtre Paul, il dit, mais dites merci. Quoi de plus normal? Dites merci à Dieu d'avoir part à ce plan, par la grâce. C'est, si vous regardez, les saints ne font absolument rien dans ce passage, hein. C'est Dieu qui fait tout. Il nous a délivrés, il nous a transportés, il a pardonné nos péchés, il donne la rédemption. C'est Dieu qui fait tout. Merci Seigneur, merci. Il fait tout dans le but ou avec l'objectif que je sois prêt à passer l'éternité avec lui. Parce que l'objectif de Dieu, c'est pas seulement de pardonner nos péchés. L'objectif de Dieu, c'est de pardonner nos péchés pour qu'on puisse vivre avec lui. Parce que l'homme pécheur ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. La Bible est très claire. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Enfin, ça, c'est. On veut bien Jésus comme sauveur, on fait des questions de faire Jésus son Seigneur, ça passe souvent. Pourtant, les deux vont de pair. Il n'y a pas de vrai évangile sans la sanctification. L'un part vers l'autre, le salut débouche sur une vie sainte, une vie de sanctification. Lévitique est très clair là-dessus. Le jour des grandes expiations arrive au cœur du livre du Lévitique, mais tout le livre du Lévitique découle et parle d'une vie de sainteté. Il nous explique comment est-ce que nous, pécheurs, nous devons faire pour marcher et vivre avec un Dieu saint. Évidemment, si on s'arrête à cette notion-là, ce n'est pas possible. On n'est pas capable. On n'est pas capable. Mais Dieu nous rend capable. Parce que Dieu a donné l'expiation. Dieu nous fait naître de nouveau et il fait venir l'Esprit Saint en nous pour nous rendre capables alors que nous ne sommes pas capables. C'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu a cette finalité. Il veut nous préparer à vivre dans sa présence, à entrer dans son royaume. Si vous regardez tous les textes messianiques, il est parlé de la Nouvelle Jérusalem et il est dit ici, je parle pas, je vais faire en belge, ici, il n'y a aucun impu, il n'y a aucun massif, comme on dit pas chez moi. Ça se dit aussi, c'est bon, c'est comme tout ça, on voit dans tout ça, c'est comment. Vous ne savez pas, vous n'êtes pas les héros de l'Église. On va voir, nous, on va voir. Il n'y a aucun impropre, aucun impur qui rentrera dans Jérusalem. À la fin de l'Apocalypse, Jésus dit, dehors les chiens, les magiciens, tous ceux qui aiment pratiquent le mensonge, à louche, pas ici, ça n'a pas lieu d'être. Dieu nous prend, nous sauve, nous incorpore dans son Église, nous
donne l'Esprit Saint pour sanctifier, purifier notre vie, pour que l'on soit prêt à paraître dans sa présence. Paraître dans la présence et vivre dans la présence de Dieu.
Mais quel plan extraordinaire, n'est-ce pas? Être saint, sans reproche au retour de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on prend place dans le plan de Dieu. Le Seigneur amène son œuvre à accomplissement. L'Église est en travail perpétuel et en constant progrès. Nous faisons partie de l'âge messianique dont parlaient les prophètes. Nous y sommes et nous sommes en route vers l'instauration d'un royaume véritable, véridique, qui va être éternel et qui commence avec un règne de 1000 ans dont nous parle la Bible. Avec Jésus à Jérusalem comme roi, roi d'Israël et roi des nations. Christ, roi, Seigneur des seigneurs, le jour où tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est vers ça qu'on est en route, n'est-ce pas? Nous faisons partie de ce moment-là, de cet âge-là. Nous devons donc progresser afin de revêtir les caractéristiques de notre citoyenneté. Nous sommes déjà citoyens du royaume de Dieu. C'est extraordinaire.
Moi, à la base, avant d'être pasteur, je suis linguiste. J'ai appris la traduction. J'aurais pu travailler à la traduction européenne, mais Dieu m'a dirigé autrement. Mais j'ai appris les langues, j'ai appris comment fonctionne une langue. Je trouve que c'est extraordinaire quand on regarde comment le Saint-Esprit a inspiré la vie, comment il l'a construit, comment il l'a développé. Il n'y a pas de hasard. Dieu parle d'un royaume. Un royaume dans lequel nous sommes déjà concitoyens, mais qui va venir plus tard, qui va être installé sur la terre plus tard. Et entre-temps, il a parsemé le monde des églises. Vous savez ce qu'il dit des églises dans 2 Corinthiens 5. Dieu dit, nous faisons fonction d'ambassadeur. Nous avons des ambassadeurs pour notre pays, partout dans le monde. Vous savez ce que c'est le job d'un ambassadeur? Représenter le royaume. L'ambassadeur, quand on va voir l'ambassadeur de Belgique à Pontoutou, je ne sais pas où c'est, mais enfin, soit, c'est quelque part dans le monde. Mais quand on va voir l'ambassadeur de Belgique à Pontoutou, c'est presque comme si on allait voir sa majesté. Il représente le roi, il représente le pays. Il a intérêt à faire ça convenablement. Parce que sinon, j'imagine le roi Philippe qui va lui faire payer cher. Comme le juste. Les églises sont les ambassades du royaume de Dieu. Votre église est l'ambassade du royaume de Dieu pour la région ici. Vous êtes les ambassadeurs du roi des rois. Vous rendez compte du plan dans lequel vous rentrez. Dieu fait de vous son partenaire pour l'accomplissement de son œuvre. C'est pas extraordinaire, ça. C'est pas extraordinaire.
Nous rentrons dans le plan de Dieu. On doit donc progresser pour revêtir les caractéristiques de cette citoyenneté à laquelle nous appartenons déjà. Comment? En ayant le même esprit. S'intéresser aux intérêts des autres. Être partenaire dans l'œuvre de Dieu, en nous et au travers de nous. C'est ce que Jésus appelait, je pense, renier à soi-même, mourir à soi-même, se charger de sa croix tous les jours et le suivre. C'est ça, c'est comme cela que l'on devient partenaire de l'œuvre de Dieu en nous et au travers de nous. Les effets de cette transformation, c'est évident quand on lit la parole de Dieu. Il va y avoir, ça va, une vie transformée, touchée par le Messie, égale une abondance d'amour les uns pour les autres et une abondance de sanctification. C'est consécutif, c'est mathématique. Ça veut dire qu'il y aura une pureté sexuelle, éthique et morale en chacun d'entre nous. Parce que c'est sur ça que l'Esprit va diriger, c'est ça, sur ça que l'Esprit va travailler dans la vie de tous les jours. Et la solidarité aussi va prendre son effet. C'est pour ça qu'au début de l'Église, on voit qu'avec les apôtres, ils n'avaient rien en commun, ils partageaient tout. C'était pour ça, c'était la solidarité. Quand vous allez préparer une réception, vous allez inviter quelqu'un, la famille, ou je ne sais quoi, pour un anniversaire ou Noël ou n'importe quoi, vous allez tout faire pour que ça soit parfait, non? Vous n'allez pas dire aux gens quand ils arrivent, bon, alors, toi tu fais les patates, toi la viande, toi les industries, tout le frais. Vous allez préparer à la vie des gens. C'est la même chose. On ne peut pas préparer le retour du Seigneur. Que vous y croyez ou pas, que vous en vouliez ou pas, ça vient même, c'est prévu, ça va arriver. Mais on doit se préparer à rencontrer le roi des rois. On doit être prêt. On ne peut pas paraître devant Dieu n'importe comment. Impossible. La raison d'être de l'œuvre de Dieu en nous, que ce soit personnellement comme au travers de l'Église, collectivement, c'est donc de nous préparer à l'éternité. Le Seigneur est clair là-dessus. Hein. Il est le Fils et l'image du Dieu invisible. Il est la suprématie de tout. Ça ne veut pas dire que Dieu a créé Jésus à un moment donné. Hein. Ça, c'est l'erreur des témoins de Jéhovah. Il est le premier-né. Et le texte le dit. Hein. Si vous faites attention, le texte précise en quoi il est le premier-né. Le verset 15 dit « le premier-né de toute la création ». Si vous regardez un peu plus loin, il est marqué « le premier-né » au verset 18 « d'entre les morts ». Il est le premier à être ressuscité. Il n'y a rien de neuf à ça. C'est comme ça depuis Pâques. Il n'y a rien de neuf. Il est le premier en toute chose. Il mérite la suprématie. Dès lors, et nous sommes serviteurs de ce Dieu-là, de ce Dieu qui a tout réconcilié au travers de son propre corps, au travers de son propre sang. Les Juifs devaient amener des animaux continuellement verser du sang sur l'autel, aller dans le lieu très saint, devant l'arche d'alliance, sous le propitiatoire, verser le sang, mais ça devait toujours être renouvelé. Notre Dieu est entré dans le tabernacle céleste, dans la présence même de Dieu, avec son propre sang. Et je ne sais pas ce qu'il s'est dit, mais moi je ne crois personnellement qu'il est arrivé devant le Père et il a répété ce qu'il avait à croire. C'est fait. C'est fait. Il a déposé le sang et il a dit tout est accompli. C'est achevé. C'est parfait. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, l'œuvre que Dieu a commencée en vous, il va la rendre parfaite pour le jour de Jésus. Vous savez, l'Écriture dit que vous êtes déjà parfait. Mais Dieu est en train de terminer le chef-d'œuvre au travers de la sanctification. C'est un petit peu ma femme qui fait de la broderie. Je ne sais pas s'il y a d'autres femmes qui font ça, mais quand mon épouse a terminé de faire la broderie, moi je vois déjà ça. Un chien, un chat, si un là, pour moi c'est fini. Je vois ce que c'est. Mais pas pour elle. Après elle prend une noire, elle commence à faire des contours. Et une fois que c'est fini, elle a changé pour un chien, un chat, mais il est plus noir pour ressortir le dessin. L'œuvre est complète. Je me dis qu'elle est l'image de l'œuvre de Dieu en nous. Avec la sanctification. Nous sommes déjà parfaits. On ne peut rien ajouter à l'œuvre de Christ. Au travers de la sanctification, Dieu fait les choses de Dieu. Pour que ce qui va ressortir soit magnifique, grandiose, extraordinaire au jour de Jésus. Pour qu'on puisse rentrer avec des paniers de fruits en abondance. Et qu'on puisse dire, ben voilà. Avant, on était un térébin d'injustice. Maintenant, on est un térébin de justice, comme disait Isaïe. Les térébins, c'était là qu'Israël avait péché contre Dieu. C'était les sacrifices idolâtres. Et dans Isaïe, il dit, vous allez devenir des térébins de justice. Ça, c'est grâce à l'œuvre de Dieu. Il prend la nature pêche, la vie pécheresse que nous avons, et il la nettoie au karcher d'une façon extraordinaire. Nous sommes participants là-dedans. Dieu nous prépare à l'éternité et Dieu nous demande de travailler à la mission de l'Église, la mission qu'il a laissée à son Église, tant à l'égard des chrétiens qu'à l'égard de ceux qui ne sont pas chrétiens, qui n'appartiennent pas à Dieu. Dieu nous demande d'évangéliser pour étendre le règne de Christ. Les versets 21 à 23 vont dans ce sens-là. Dieu transforme des êtres pécheurs à l'image de Christ, de sorte que leur style de vie est changé. La doctrine de la justification par la foi, dans cette perspective, elle est centrale et capitale. Tout s'accomplit par la foi, par la confiance que l'on met dans l'œuvre de Jésus à la croix. À partir de ce moment-là, Dieu commence à travailler. Il nous transforme pour que l'on puisse devenir celle et celle. On puisse donner soif autour, au travers de nous et autour de nous, de connaître Jésus. Qu'on puisse interpeller, qu'on puisse éclairer le chemin de ceux qui sont ignorants. Dieu donne une mission à son Église et nous rentrons dans le travail de Dieu. Ensuite, le Seigneur nous demande d'amener les gens à grandir, à devenir matures en Christ. Parce que le Seigneur ne nous appelle pas, si vous regardez la mission qu'il a donnée à l'Église à la fin de l'Évangile de Matthieu, c'est clair, hein? Souvent, nous, on retient baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites la mission des disciples, baptisez-les, oui, et puis, enseignez-leur tout ce qui est inscrit. Enseignez-leur. L'enseignement est important, parce que Dieu nous appelle à grandir. J'ai rien contre ces gens-là, je ne dis pas ça pour mal, vous savez, même les nains grandissent. Pas beaucoup, mais ils grandissent. Ça m'apprend une chose. Ça m'apprend que la croissance est quelque chose de normal et de naturel. Et ne pas grandir n'est pas normal, et ce n'est pas naturel. Spirituellement, c'est exactement la même chose. Dieu nous appelle à grandir. Dieu nous appelle à devenir mature, à avoir la stature de Christ. Donc réfléchissez, je me dis, c'est quoi la stature? Parce que, hein, j'imagine, je pense, moi, le mot que je remplacerai par stature, c'est carrure. J'en ai parlé, mais mon père faisait 1,93 m, 120 kg. C'est un commando, un ours. Sa mère faisait ça, il m'a mis une fois une gifle.
J'en ai pas demandé une deuxième.
J'ai jamais grisé. Je me dis, moi, je dois avoir une carrure. Heureusement qu'il y a des opérations chirurgicales. Parce que naturellement, je n'y arriverai pas. Mais je me dis, si, moi, j'en ai dit, petit, on est comme papa. On est tous comme ça, on est tous comme papa. Spirituellement, c'est la même chose. Pour qu'on ait envie de la carrure de Jésus. D'être comme lui.
Ni plus ni moins. Amener les gens à grandir. Comment vivre dans l'attente du retour de Christ? Et pourquoi? Mais je pense qu'il faut connaître le vrai évangile. Il y a des faux évangiles qui sont prêchés à gauche et à droite. Des fois, même dans les églises, il y a des trucs qui ne sont pas bibliques qui sont prêchés. Le vrai évangile, ça parle d'une nouvelle naissance.
Vous vous rappelez du vieux gars qui avait trouvé Jésus, Nicodème? Il dit, mais on sait que c'est pas le même, comment ça va? Et lui, il a dit, si tu n'es pas nouveau, tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu. On dit, mais waouh, quelle route qu'il va tourner. Il fallait quand même, on voit ce vieil homme qui est là, qui dit, mais c'est souvent, quand c'est pas traduit, on dit n'importe quoi. Mais comment est-ce qu'on peut rentrer dans le monde de sa mère et n'être encore? Évidemment, j'ai dit, mais là, t'es docteur, t'as rien compris. Tu enseignes le peuple, mais t'as rien compris. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce que, il n'est pas Jésus, hein. Lui, c'est tout, non, c'est rien. C'est parce que j'ai voulu 31 parler de ça. Normalement, Nicodème aurait dû comprendre, aurait dû savoir.
Mais il était passé à côté. On peut passer à côté du vrai évangile. Le vrai évangile, c'est Dieu qui donne sa vie pour moi, pour me donner la vie, pour naître de nouveau. J'étais mort dans mes péchés, mais grâce à Dieu, je suis ressuscité avec lui. C'est ça le vrai évangile. C'est par la grâce, par le moyen de la foi, pas par la religion, les bonnes œuvres, mais la religion, tout système humain, rien à voir. Nouvelle naissance. La nouvelle naissance est égale à passer de la mort à la vie, comme dit la Bible. De ce siècle mauvais au royaume messianique, de la passion, la vie, une vie commandée par les passions de la chair à une vie commandée par l'action du Saint-Esprit. Alors évidemment, quand on vit cela, il faut faire attention au relâchement. Il faut faire attention à ne pas baisser la garde, n'est-ce pas, au niveau spirituel, éthique et moral. Il ne faut pas utiliser la liberté de Christ pour excuser, tolérer le péché en nous. Parce que la finalité du laxisme, c'est la destruction de l'Église. Les textes bibliques nous parlent de conflits, de divisions, de rivalités, etc. Tout ça, ça arrive quand on ne marche pas en étant dans la soumission du Seigneur. C'est quand on laisse sa propre nature commander et diriger notre vie. Alors la solution que Dieu donne, c'est de maîtriser les passions de la chair par la puissance du Saint-Esprit. Ne pas chercher à vivre une spiritualité, mais à chercher à expérimenter nos relations personnelles avec Dieu. C'est à ça que Dieu nous appelle. Et il faut bien comprendre aussi qu'il y a des obstacles que l'ennemi va placer devant nous pour nous empêcher de vivre ça. Il faut le comprendre, il faut les connaître pour justement pouvoir les balayer. Il y en a beaucoup, hein, mais il y a des zones d'influence. L'influence du monde séculier sur la mentalité chrétienne. Il faut faire attention à cela. Ce qui doit nous influencer, c'est la parole de Dieu, c'est pas la mentalité de notre monde. Faisons attention à l'immoralité sexuelle aussi. Il faut faire attention à cela, ne pas être influencé. Il faut faire attention à ne pas être influencé par l'individualisme. C'est se désintéresser des intérêts des autres. Toutes ces choses, c'est contraire à ce que dit la Bible. À l'égoïsme, se servir plutôt que servir. C'est contraire à ce que dit l'Écriture. Au désordre dans le ministère de l'Église aussi. Dieu est un Dieu d'ordre, hein. Il ne mélange pas les torchons et les serviettes. Il n'aime pas quand les choses sont en désordre. Alors si vous êtes convaincu, évidemment, d'une juste cause, ben, vous allez tout faire pour vivre pour cette cause, vous conformer à cette cause. Et puisque nous avons la certitude que Jésus revient, qu'il est juste, qu'il est saint, qu'il nous appelle à participer à son plan, et qu'il ne va pas faire de compromis à la belge avec nous par rapport à son œuvre et à ses ordres, à ses exigences, faisons tout notre possible pour être soumis et obéissants au roi des rois, parce qu'il est notre sauveur, il est notre frère, amen, il est notre Dieu, mais il est et reste le roi des rois et le seigneur des seigneurs. On ne fait pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le roi des rois. Extraordinaire, n'est-ce pas? Alors soyons, en conclusion, une vierge sage, n'est-ce pas? L'Église est une offrande sanctifiée. Où que l'on soit juif ou pas juif, on fait partie de cette offrande. Préparons-nous à entrer avec joie dans la présence de Dieu et à pouvoir réjouir notre Dieu quand il sera devant nous, qu'on puisse entendre, c'est chouette, brave, brave gars, brave fille, fidèle serviteur, c'est bien, je suis content que tu sois là, fantastique, ta place est prête, ta chambre est prête, on va aller visiter, je vais te faire voir. Vaut mieux entendre ça plutôt que d'entendre le Seigneur dire, c'est sorti s'il vous plaît, t'es qui toi? La parabole des noces nous dit qu'il y aura ce genre de cas de figure, malheureusement. Soyons prêts. Soyons prêts, soyons à l'œuvre et soyons des outils. Levons-nous et édifions l'Église pour la gloire de Jésus. Amen.